Je m'appelle Jean-Luc Brémond, j'ai 54 ans, je travaille pour la commune de Gap dans les Hautes-Alpes. Je suis également accompagnateur en montagne. C'est une passion qui est née dans les Hautes-Alpes. J'ai toujours énormément apprécié regarder les montagnes, les sommets. Je trouve que c'est un environnement qui me plaît. En fait, l'expédition du Manaslu, c'est un autre sommet d'Himalaya qui fait plus de 8000 mètres, le sixième sommet de la planète Terre. Et c'est un sommet que je voulais tenter sans oxygène, sans Sherpa et sans assistante, c'est-à-dire en autonomie, de façon la plus pure possible, quoi, avec beaucoup d'éthique. Donc moi, je suis parti seul français. Et en fait, dans l'aéroport, mon regard a croisé une personne qui portait des chaussures réservées donc à l'himalayisme. Et en fait, c'est une personne qui s'appelait Zoltan Benedek. Et on a décidé donc d'allier nos forces tous les deux. Bon, après, au niveau du gabarit, on va dire qu'il y avait un petit français plutôt latinos. Et en face, on avait un autrichien typé, donc germanique, une bête, quoi, triathlète, quoi, vraiment un monstre. Ça a passé très vite le courant parce qu'on avait les mêmes envies, la même éthique. On voulait faire ça sans oxygène, sans Sherpa. Donc, on est allé dormir à 7400 mètres en plusieurs étapes. Et la dernière nuit à 7400 mètres, le lendemain, donc c'était le sommet, c'est ce qu'on appelle le summit push, quoi, c'est le Graal, quoi. Et le matin du sommet, donc Zoltan avait des signes de fatigue. Comme j'étais dehors et qu'il faisait moins 25, je lui ai dit, mais je vais y aller, I'm going now, step by step, quoi. Je vais y aller maintenant, pas à pas, sans toi. Mais ma réflexion, ça a été, c'est facile, sachant qu'il est plus puissant que toi, de toute façon, tu vas partir devant, et à un moment donné, il va te rattraper. Sur cette montagne, du Manaslu, il y avait à un moment donné, il y a eu deux itinéraires. Un itinéraire un peu plus raide que notre. Moi, j'ai pris sur l'itinéraire de gauche, un peu moins raide. J'ai pu rattraper le groupe dans lequel j'étais, composé d'un Américain, le chef d'expédition, avec deux Sherpas et une cliente japonaise. Et là, moi j'étais content parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on a en face de soi des gens qui sont avec de l'oxygène et que quelque part, quand on ouvre la tente, on voit ces personnes qui ont plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure d'avance, tu les as rattrapés, quoi. À la loyale. Ça c'est quand même assez motivant, c'est galvanisant. Du coup, à un moment donné, comme je savais que le sommet était très petit, en fait, il y a de la place pour 3-4 personnes. Je me suis dit, je vais les laisser repasser devant. Et effectivement, quand tu arrives en haut, donc il y avait le chef d'expédition qui était en face de moi. Donc moi, je suis arrivé au sommet, j'étais vraiment ravi, quoi. C'était la banane. D'abord, c'est extraordinairement beau. C'était une nuit où il faisait clair, on voyait les étoiles. C'est un tremplin pour le ciel, quoi. C'est ça. J'en pleurais, mais c'est ça. Et j'ai posé la question au chef d'expédition. J'ai dit, why is Zoltan? Et il me répond, ah, Zoltan Summit. Moi, je me dis, comment est-ce possible? Mais après, il y avait cette histoire des deux fils, ou sur la gauche, ou sur la droite. Et là, je me suis dit, mais alors, sachant que, effectivement, il a toujours été plus puissant que toi, il est passé sur la droite, et après, et en fait, il est redescendu. Et du coup, moi, je me suis dit, mais alors, c'est possible, c'est possible. Donc, moi, j'ai commencé à redescendre tranquillement. Donc 8163 mètres, je suis arrivé à peu près à 8000. Et là, je vois quelqu'un qui arrive, qui monte, Zoltan. Et il me dit, Jean-Luc, monte au sommet avec moi, monte au sommet avec moi. Et moi, je le regarde, et là c'était vraiment... j'ai dit, mais j'ai fait le sommet, je ne peux pas remonter. Je ne pouvais pas remonter. Et là, je suis resté. En fait, Zoltan est arrivé au sommet fatigué, mais il s'est fait des photos, il s'est fait des images vidéo. Moi, j'attends en bas, et je vois tout ça. Donc, en fait, moi, je suis resté au moins une heure à attendre. Et ce qui s'est passé, c'est que Zoltan, en fait, il a obtenu son Graal, et quand il est redescendu, il était dans un autre état. Il regardait l'Himalaya perdre de vue dans un... Voilà, c'est... J'étais sur l'Olympe, quoi. Le temps avait passé, il faisait nuit à 18h et il fallait qu'on bascule sur un versant est. Le versant est, il était gavé de glace. Il fallait qu'on plie la tente et tout. Alors j'ai compté dans ma bille toutes les nuits que j'avais fait à très haute altitude. Alors je me suis dit, bon, j'ai dormi déjà 2 fois 7500 mètres sans oxygène, en faisant un début d'œdème cérébral. Je me suis dit, ça devrait passer et tout. Et puis Zoltan, lui, il avait quand même fait 8600 mètres à l'Everest sans oxygène. Et bon, il avait perdu des orteils, mais il avait fait 8600 mètres. Il avait fait le Shishapangma. Bon, 7400 mètres, ça passe. Et du coup, on est arrivé aux tentes. Le lendemain, il faisait beau. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de stresser. S'il est fatigué, autant qu'il se repose. Enfin, une fois qu'on est arrivé à tente, je fais, Zoltan, tu es vraiment fatigué. Est-ce que tu veux qu'on dorme là, tous les deux? Il n'a pas dit non. Bien sûr que ça a été OK, on dort là. On a fait fondre de la neige, on s'est réhydraté, on s'est mis dans les duvets. Du coup, on a commencé notre nuit et en fait, il n'y en a qu'un qui s'est réveillé. Voilà. Dès que le soleil a commencé à sortir, donc j'ai vu la lumière arriver, je me suis dit, bon, là c'est le moment, bon, il faut commencer à se préparer et tout. Et je donne un coup de coude à côté, je fais, how are you, my friend? Pas de réponse. Bah, enfin, un deuxième petit coup de coude et tout, aucune réponse. Et là, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je suis sorti de cette tente, mais sans me préparer. C'est-à-dire que j'ai pas remis mes chaussures, j'ai pas mis mes gros gants. Je suis sorti dehors, donc c'était 5h30 ou 6h du matin, heure chinoise, en chaussons, avec des tout petits chaussons, quoi. Et puis là, la première chose que je fais, donc il restait quelques tentes derrière, et je fonce vers une tente, et là donc je tombe sur des Allemands qui ont complètement paniqué de me voir arriver, parce que en fait, en ouvrant la tente, je faisais rentrer le froid chez eux, et ils voulaient absolument pas de ça, quoi. Du coup, ils ont essayé de bloquer les fermetures éclair de l'intérieur, quoi. Et j'ai dit, my friend is dead. Et donc ils ont ouvert un petit peu la tente, ils m'ont dit, oh, mais il y a une tente qui est vide derrière. Tu devrais t'y installer. Et là, ça a été la deuxième plus grosse erreur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis carrément échoué dans cette tente vide, à même le sol. Et là, j'avais beaucoup de mal à retourner à la tente. Parce que le problème, c'est comme on était quand même vraiment très, très proche, mes affaires et ses affaires étaient totalement mélangées. Et en fait, mon duvet avait été emprisonné. Je ne pouvais même plus récupérer mes affaires. Là, à ce moment-là, je me suis dit, Jean-Luc, tu es mort. C'est fini. Quand on voit un monument comme ça s'en aller, en pleine nuit, alors sans bruit, et que le petit latin de 1m71 se retrouve sans duvet, dans une tente vide, parce qu'il n'ose pas retourner là-bas pour pas bouger le corps, parce que c'est compliqué, et que toutes les affaires sont dans cette tente, mais que sans ses affaires, quelque part, il est mort. Là, le plus petit, il se dit, bon, ben, de toute façon, t'as aucune chance d'en sortir. Là, c'était la nuit de trop. Tu as tenté, tu as réussi, tu as osé, mais là, tu as poussé le bouchon trop loin. Et là, la fête est finie. T'es terminé. C'était encore d'autant plus violent que j'ai pas pu fermer la fermeture de cette tente complètement. Et de là où j'étais, je voyais donc la nôtre qui s'ouvrait et les pieds qui était dans ce duvet, là, qui était dehors, quoi. Et là, c'était affreux. C'était affreux de voir cette image. Alors, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça peut finir dans le cauchemar, quoi. Et donc, ça s'est terminé que, finalement, j'ai quand même eu de la chance dans ce naufrage. Ça s'est su en bas, au camp intermédiaire. Et en fait, comme il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sous oxygène, il y avait plus bas une bouteille. Et il y a un Sherpa qui est monté. Alors c'est extraordinaire, si je l'ai rencontré, je le raconte sans honte quelque part, parce que on n'a pas voulu de l'assistance Sherpa pour mériter au maximum ce sommet. Et finalement, je suis sauvé par un Sherpa avec de l'oxygène. Et alors que je m'étais dit, j'en prendrai plus jamais de ma vie. Moi, je me suis dit, bon, cette perche qui compte tant, pense à Zoltan, peut-être qu'il aurait aimé avoir ça, lui, cette chance-là. J'avais besoin de quelqu'un, moi, pour retourner à cette tente. Je voulais pas y retourner seul. On s'est mis à genoux, avec le Sherpa. Donc, il y avait Zoltan qui était dans son duvet, pleure. Et là, on a essayé de récupérer le mien de duvet. Parce que moi, en fonction de l'endroit où j'allais atterrir, je savais pas où j'allais dormir. Ce duvet, c'était ma survie. Je pouvais pas faire autrement que d'emporter ce duvet. problème, c'est qu'on n'arrivait pas à le sortir. Parce que Zoltan était recroquevillé, son corps avait enserré le manguibé, quoi. Et on s'est mis à deux, on a tiré, on a tiré, on a déchiré. On a sorti ce duvet, j'ai mis mes chaussures, et là, on a commencé à descendre. Alors, les 60, 80 premiers mètres à la descente, quand je me suis remis debout face à la pente, là, je me suis dit, oula, quand même, ça va être violent. Et puis finalement, non, j'ai récupéré impeccable. Et là, j'arrive à 6800 mètres d'altitude. Voilà, j'enlève la bouteille d'oxygène, la pose, et je dis au Sherpa, en anglais, je dis, bah écoute, je vais à la tente du dessous récupérer mes affaires. Et il me dit, non, 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 toi, tu bouges pas de là. Il y a un hélicoptère qui va venir te chercher. Je suis parti direct à Katmandou, quoi. Et en fait, l'hélicoptère s'est posé, et moi, je me suis retrouvé tout de suite. En auscultation, on va dire, intensive. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à cracher du sang, quoi. J'ai fait un œdème pulmonaire. Du coup, j'étais quand même content d'être là, quelque part. Donc, Zoltan était décédé d'un œdème cérébral. C'est très, très, très dur au niveau de la reconstruction. Parce que, parfois, il y a des moments où on est en famille, où on sourit, où on vit, où la vie reprend le dessus malgré tout. On dit, mais tu vis normalement, mais Zoltan n'est plus là, et toi tu es avec ta famille, mais lui n'est plus là. Voilà. J'aimerais quand même retenter l'expérience et pour vivre l'aventure. Parce que ça fait partie de mon existence et quelque part. Comme d'autres, j'ai une partie d'addiction à ça. Et que le fait de vivre de façon normale m'ennuie, quoi. C'est vivre intensément son existence, quoi.